Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC, entre les poteaux,
Christophe Cessieux.
Salut à tous, le Stade Toulousain a peut-être enfin trouvé un adversaire à sa hauteur cette saison en top 14. Cet adversaire, c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui a encore marqué les esprits ce week-end en venant battre le Racing dans son antre de la Défense Arena et en infligeant pas moins de 5 essais au Racing Man. Les Bordelais, même privés de Jalibert, marquent les esprits depuis le début de la saison et talonnent les Toulousains qui leur rendront visite la semaine prochaine. Alors, les hommes de Urio sont-ils les armes pour détrôner Toulouse en fin de saison? Ce sera le thème de notre mêlée. Le frelon de la semaine est un frelon malheureusement bien triste. Mathieu Bastaro s'est à nouveau blessé ce week-end alors qu'il revenait tout juste de blessure. Ses deux genoux sont touchés et on se demande s'il aura la force et l'envie de poursuivre sa carrière une fois son corps réparé. On en discutera dans quelques minutes et on rendra hommage à ce grand bonhomme du rugby français. Et puis comme toutes les semaines, les dernières nouvelles de la scène internationale dans French Cancan et la visite ce week-end dans le top 14 du gourou de la rose, Eddie Jones, le sélectionneur anglais qui était dans les tribunes de Montpellier ce samedi. Qu'est-il venu faire? Qui est-il venu espionner? On vous dira tout en fin d'émission. Les poteaux du jour, les voici, les voilà, à commencer par notre Denis Charvet national. Salut Denis.
Ça marche là, oui.
Ça marche. Oui, ça marche. Ouais, bon, tout va bien. Tout va bien. Ça va, ouais. Denis?
Oui, impeccable, bon en grande forme. Ouais.
Très bien. Le patron n'est pas là, mais son adjoint est tout aussi brillant, voire peut-être même un petit peu plus. Léo Faure du Midi Olympique est avec nous aujourd'hui. Salut Léo.
Et copain.
Il est encore en vacances, le patron, ou quoi?
Je vous laisserai la paternité du encore, mais oui, il est en vacances.
Il est toujours en vacances.
Et puis eux, ils ne prennent jamais de vacances, en tout cas pas toutes les semaines. Hein. Le 15 de choc d'RMC Sport, Wilfried Templier.
Allez, voilà.
Et Jeff Paturo.
Bonjour. Salut, salut. C'est pas vrai, en plus, Jeff est en vacances la semaine dernière.
Tout ça parce que j'ai mangé du gâteau basque.
Pas quand vous faites. Ah là là. Vous avez vacances,
vous m'envoyez les photos en plus.
Ah, du gâteau. Travaille jamais vraiment,
il va nous...
Ah, je travaille pas, voilà, on fait un grand débat. Mauvaise idée, très mauvaise idée que celle d'aller faire un tour au frigo ou aller chercher une bière à la buvette de la Défense Arena hier aux alentours de 22h. 22h, l'heure du crime, l'heure où l'UBB et ses flèches ont donné le tournis aux défenseurs du Racing.
C'est bordelais, la réaction bordelaise se teignit à la conclusion. Le centre samoan de l'UBB en coin qui permet à son équipe de revenir dans la partie.
Mais
le deuxième essai bordelais. Santiago Cordero, mais c'est encore un essai.
Encore.
Je sais bien, c'est fou ce qui est en train de se passer. Alors qu'on le rappelle, ils menaient 14-6 les Franciliens à la pause. Et bien, ils sont désormais menés 23-14.
Oh, le quatrième essai pour l'UBB et voilà. Le triplé pour Cordero. Incroyable ce ballon cafouillé. Finalement, il le récupère.
Énorme, énorme victoire de l'Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse du Racing 92, 37-14, 5 essais marqués à 2, points de bonus offensif pour le deuxième du top 14, 34-0 infligé au Racing 92 alors que les Franciliens menaient à la pause 14-6.
Voilà, 3 essais en 7 minutes, plus 2 quelques instants plus tard, ça nous fait 5 et tout ça offre un 8e succès en 11 matchs aux hommes de Christophe Furios qui depuis le début de la saison nous régale et dégoûte leurs adversaires. Pourtant hier soir, leur première mi-temps avait été plutôt quelconque, oui, mais les Racingmen ont commis l'erreur fatale, celle de se moquer de leurs adversaires bordelais et ça, Christophe Furios l'a pas digéré, il a su habilement faire passer le message à ses joueurs à la mi-temps.
Oui, j'ai retrouvé mon équipe. Une équipe debout, qui renonçait pas. Même si la première mi-temps, on a fait beaucoup d'erreurs, qui a fait qu'on a perdu le score. Ça aurait pu être pire, même, hein, si nous n'avions pas manqué de respect. Mais comme je mens pas, donc je suis obligé de dire ce que j'ai dit à la mi-temps. Je leur ai dit trois choses. La première, qu'ils nous prenaient pour des cons. On ne pouvait pas se faire prendre pour des cons comme on l'a fait sur la première mi-temps. En fait, il y a eu une période, hein, ça n'a pas été ça tout le temps. Hein. Je sais pas si ça les a motivés, mais on s'en est servi, moi. Deux, qu'il fallait monter le curseur. Je ne nous ai pas trouvé très bon. On n'attaquait pas les bonnes zones. On faisait des passes pour faire des passes. On n'arrivait pas à placer notre jeu. Je nous trouvais très timides, et notamment derrière. Et trois, il fallait être beaucoup plus précis, proche des lignes, quoi. Je pense que c'est mentalement qu'ils ont craqué. Et après, physiquement.
Christophe Furios au micro de Julien Richard. On l'a compris, hein, il ne faut pas se moquer des Bordelais. Ils sont susceptibles, les bougres, Denis. Et Christophe Furios a très bien réussi à faire passer le message.
Susceptible, mais en même temps meilleur, tout simplement. Après, il n'y a pas d'arrogance forcément de la part du Racing. Je sais que Teddy Thomas a été un peu secoué par son président, mais franchement, quand tu vois le match, notamment la seconde mi-temps, je pense qu'ils ont explosé physiquement. Je crois qu'il y a un vrai problème physique et qu'il y a quelques joueurs du Racing qui revenaient de blessure. Ça n'a pas arrangé l'affaire et sincèrement, il n'y a rien à dire sur le match. Même si la première mi-temps était plutôt à l'avantage du Racing et notamment derrière, on l'a revu que Bakatawa a un bon niveau, un très bon niveau, les ailiers aussi.
Mais tu penses pas que le fait que Urios vienne les piquer comme ça, que Teddy Thomas vienne les chambrer.
Il a donné à manger.
Mais ils en jouent, tout le monde en joue. On joue toujours sur ces ressorts-là, on joue toujours ces leviers-là, on en cherche toujours des solutions pour motiver ces joueurs, surtout quand ça va pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit voilà, ils sont pas arrogants, mais ça suffit pas pour réussir ce qu'ont réussi les Girondins en seconde mi-temps. Ouais. Pour moi, la performance, elle est réelle.
Mais le Racing était un peu suffisant quand même hier.
Suffisant, mais ils ne pensaient pas, si tu veux, en seconde mi-temps, exploser comme ça. Je pense que physiquement, ils ont pété et les autres ont fait une seconde mi-temps de roi. Donc, tu sais, moi, j'ai joué des matchs comme ça où parfois, en première mi-temps, c'est un peu comme de la boxe. Tu domines ton adversaire et tu te dis, rien ne peut t'arriver. C'est ce qui s'est passé. Le Racing dominait son adversaire. Les Bordelais faisaient beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup de déchets. Et finalement, tu te dis, il ne peut rien leur arriver. Donc, tu peux dire ça sous le terme de l'arrogance, mais j'y crois pas trop, moi. Je crois surtout que...
Wilfried n'est pas d'accord avec toi.
Non, parce que tu files à bout. Faut en mettre 40 quand tu fais ça.
Oui, mais 40.
C'est toi, collectivement. Donne ça. Regarde les Toulousains, dans les phases finales. Ils vont chercher la moindre petite chose pour se motiver. Imagine à l'époque de Guinoves, tu étais un joueur qui leur fait venez, comme ça, là. Mais où un de ces joueurs aurait fait ça, mais il l'aurait,
Wilfried, c'est qu'il faut avoir les moyens de le faire. C'est toujours bon d'aborder en ressort, de dire, allez,
Mais faut avoir les cuisses propres, Denis. Faut avoir les cuisses propres.
Il faut avoir le coffre. Et là, je peux te dire qu'ils avaient le coffre. S'ils n'avaient pas eu le coffre, ils auraient jamais gagné hier.
Mais il a appuyé sur le ressort qu'il fallait.
Léo. Ils dormaient, les Bordelais. Laissez-les dormir. Pourquoi tu les réveilles?
Je pense pas qu'ils dormaient réellement. Ils ont fait une première mi-temps.
Ils ont pas le même engagement.
Jusqu'à la 38e minute, ils dormaient. Ils ont commencé à se réveiller en toute fin de première mi-temps.
C'est un peu con.
Comment vous expliquer que le Racing a explosé physiquement? Moi, je pense que la vraie question est là. Comment le Racing a pu passer au travers en seconde mi-temps d'une telle façon?
Denis, tu les connais les ressorts collectifs quand à la mi-temps ton coach il te dit mais vous avez vu là ils vous prennent pour des cons. Ils vous prennent pour des cons à faire ça. Il a dû dire vous êtes des les gars là.
Quel a été le discours de Laurent Travers, imagine? Je pense que c'était le même, inversement. Je pense pas que le Racing
Il a pas eu le temps de leur dire parce que ils étaient sur le terrain.
Je pense qu'ils ont pas les moyens physiques. Moi je suis pas comme vous. Moi le regard que j'ai sur cette rencontre, c'est que physiquement
le Racing qui est l'un des plus gros budgets du championnat, qui a des internationaux à tous les postes, explose comme un popcorn sur son terrain en 40 minutes. Et tu trouves ça normal?
Ficou a joué 3 matchs à 80 minutes, il avait pas joué depuis 3 semaines. C'est des matchs de rentrée.
Il a fait quoi?
Woki, mais
Jalibert, il était même pas là.
Oui, mais c'est collectivement qu'ils ont explosé. Je veux dire,
ils se sont pas fait casser la tête non plus. La vitesse qu'ils se font déposer en deuxième mi-temps. J'ai pas l'impression qu'ils se font marcher dessus.
Devant, ils sont plus devant. Seconde mi-temps, enfin, pour moi, devant, ils ont Bordeaux a réellement pris l'ascendant, qui a fait la différence, il me semble, avec
Loukou,
à la mêlée, qui a été omniprésent à la mêlée, le petit Loukou.
Il est pas mal du tout. Ce Loukou, c'est un vrai redoublure.
Lucu.
Il est pas du tout roumain.
Il est pas roumain.
Alors, Wilfried,
on
sait jamais.
Avec ton frère Chimoun.
Wilfried, c'est vrai que même privé de Jalibert, les Bordelais sont redoutables. Et c'est pas le premier match où ils le démontrent. Les statistiques d'ailleurs parlent pour eux. Depuis le début de la saison, elles sont flamboyantes, les stats de l'UBB.
On a 8 victoires en 11 journées, 1 nul à Castres et 2 défaites seulement, avec le match perdu dès la première journée à Biarritz, qui semble loin quand même, parce que dans la foulée, les Bordelais ont enchaîné 8 matchs sans défaite. Et c'est un autre revers sur la pelouse de La Rochelle, juste avant la trêve internationale, qui a finalement piqué l'orgueil des ambitieux du bébé, qui ont répondu au Racing, comme l'explique le capitaine Mamadou Diaby.
Il y a ce match de La Rochelle, clairement, qui nous est resté en travers de la gorge pendant toutes les vacances. À la reprise, on a revu encore ce match de La Rochelle. Et c'est vrai que c'est, des fois, les matchs comme ça, ça remet les idées en place. Et ce soir, on a montré qu'on était une équipe quand même différente de celle qu'on a vue à La Rochelle.
Et du coup, festival à la défense, le Racing a payé la note. Quand l'UBB hausse le ton, ça peut faire mal, 31-0 en une mi-temps, donc 5 essais. Alors si vous les avez vus, tous aussi beaux les uns que les autres. Mais ça confirme quand même, messieurs, une première partie de saison à la hauteur du statut quand même. Rappelez-vous, de demi-finaliste à la fois du top 14 et de la Coupe d'Europe l'an passé. Un an encore auparavant, si on remonte, Bordeaux était même premier du championnat au moment de l'arrêt dû au confinement et au Covid. Donc c'est quand même une confirmation. Alors Bordeaux peut-il être l'équipe qui va arrêter le grand Stade Toulousain cette saison?
Ils nous ont martyrisé l'année dernière, ils nous ont battu 4 fois.
Ouais, Christophe, c'est pas faux. Christophe Furios, le manager de l'UBB, le rappelle, le bilan est négatif face à Toulouse, avec notamment deux éliminations en demi, Coupe d'Europe et Top 14. Mais si on parle beaucoup de Toulouse, Bordeaux peut peut-être, et on va en parler, se mettre sur la route du champion. Lui, Christophe Furios, fait profil bas pour le moment.
Quand on parle de Toulouse, c'est pas dérangeant, et c'est juste, quoi. Ils ont été champions de France, champions d'Europe, ils sont premiers, ils ont un peu de marge. Qu'on soit dans la roue de Toulouse aujourd'hui, c'est pas gênant non plus. Là, aujourd'hui, il me semble qu'on est à deux points de Toulouse. Mais ce qu'on regarde vraiment, c'est évidemment ce qui se passe devant, mais aussi ce qui se passe derrière nous, quoi. Le troisième, le septième. Donc là, aujourd'hui, de par les jeux des résultats des autres, on marque un peu notre territoire par rapport à d'autres, quoi. Après, quand on parle de Toulouse, c'est pas, je trouve ça normal. On va peut-être parler du jeu de Bordeaux, maintenant.
Bah oui, parce que lui, il a souvent pris des pics indirects de la part d'Hugo Mola, son homologue toulousain, son meilleur ennemi, vous le savez, mais sur oui. Le jeu produit par leur équipe respective. Sachez que Toulouse et Bordeaux ont quasiment la même attaque, la meilleure du championnat, 293 points pour les Toulousains, 292 pour les Bordelais, mais l'UBB est devant en termes d'essais, 34 contre 32, numéro 1 et top 14. Et peut-être que tout le monde va pouvoir s'expliquer samedi soir, Christophe à Chaban-Delmas, même si les Toulousains ont laissé entendre ce week-end qu'ils pourraient faire tourner avant la Coupe d'Europe, mais on va en reparler parce que c'est peut-être pas sûr que ça joue cette Coupe d'Europe le week-end suivant.
Messieurs, cette équipe bordelaise vous impressionne-t-elle? Est-ce que vous sentez que cette équipe est en progression par rapport à la saison dernière et qu'elle est en mesure d'inquiéter un peu plus Toulouse que ça a été?
Elle est assez étonnante dans la mesure où, quand il n'y a pas Jalibert, quand même leur joueur qui fait souvent les différences dans leur match, ben là ils sont porflins de Jalibert, donc c'est une bonne chose. Et puis il y a des joueurs qui comme Buros qu'on connaît, qui
Sotheny était énorme.
Sotheny est énorme.
Cordero,
donc il y a de la qualité, ça on le sait, mais moi je suis là où j'ai plus davantage surpris, c'est devant, quoi. Devant, j'ai l'impression que s'ils veulent un jour battre le grand Stade Toulousain, ça se passera devant. Parce que derrière, il y a la qualité pour rivaliser avec le Stade Toulousain, mais tu sais très bien que le rugby, ça commence devant. Mmh. Et là, je pense quand même qu'ils ont franchi un palier et ils sont pas loin. Ils sont pas loin.
Il faudra d'ailleurs saluer le travail de Julien Laïrle, qui est souvent dans l'ombre, mais il bosse bien. Parce qu'il a pas un effectif non plus 4 étoiles devant et il en fait de super choses.
Il y a quelques joueurs qui apportent devant, Ken Douglas, Guido Petit. Guido Petit aussi énorme, qui n'était pas là, hein, qui a son expérience. Woki qui prend une autre dimension. Il relance des mecs. Alors Diaby aussi qui a fait un sacré match. Ouais, Diaby, c'est sûr, tu l'as dit. Hein, Toulouse face à Toulouse, ce sera certainement devant.
Paiva, le pilier gauche, aussi, qui est en train de s'imposer.
Tabaï Founa, je trouve que cette équipe bordelaise, c'est la confiance qu'elle a en elle, en son jeu qui marque. Je ne sais pas si vous pensez ça.
Moi, je pense qu'il y a un vrai collectif qui de plus en plus est bien huilé et t'as l'impression qu'il y a une bande de copains qui s'amusent et qui a envie de réaliser de grandes choses. Moi, c'est ce qui me, j'ai l'impression de.
Attendez, la célèbre bande de copains, quand même.
Non, mais tu sens quand même qu'il y a une belle énergie qui se dégage de cette équipe, il me semble.
Et après, si on reprend leur parcours depuis le début de saison, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont un super bilan comptable, Wilfried l'a détaillé, mais je trouve pas qu'ils aient un match pleinement abouti. Là, hier, ils font une deuxième mi-temps incroyable, mais ils n'ont pas 80 minutes d'incroyable. Et quand je reprends leur parcours, je vois pas de match, le fameux match référence auquel ils font tous allusion. Toulouse en a, d'autres clubs en ont. Eux, je vois pas un match complètement abouti, ce qui donne quand même la marge de progression aussi. Hein.
Ouais, mais du coup, t'as besoin que de 40 minutes avec l'UBB, parce que quand ils mettent la surmultipliée, ça y va, quoi.
C'est vrai.
Alors, c'est vrai que Bordeaux n'a jamais été sacré depuis que le rugby est professionnel en France. Le dernier bouclier qu'ils ont ramené à Place de la Victoire,
c'était des amateurs.
En 1940, des amateurs
éclairés. Hasard,
ouais. Enfin, éclairés, je ne sais pas.
C'est pas le terme.
Les rapetous, évidemment, 1991. Est-ce que leur heure, vous pensez, a sonné? Est-ce qu'ils peuvent, cette année, vraiment rivaliser avec le Stade Toulousain? Jeff, qui est neutre dans l'histoire.
Faut pas oublier que ce que disait Christophe Furios la saison dernière, c'est qu'ils ont appris beaucoup. Ils ont fait deux demi-finales de Coupe d'Europe la saison dernière, en Challenge et en Champions Cup. Ils ont accumulé l'expérience. On voit qu'il y a des joueurs qui émergent en équipe de France. On parle de Woki, Jalibert, d'autres, qui jouent de plus en plus des gros matchs. Attention, parce que les matchs de phase finale, ils en avaient pas joué beaucoup, ces joueurs-là, avant. Et il se passe quelque chose dans cet effectif, aussi bien en termes de jeu, d'expérience. Et c'est vrai qu'on va avoir, par exemple, samedi, ce sera un vrai test pour cette équipe. Peut-être aussi psychologiquement, face à Toulouse l'année dernière, ils ont été balayés par cette équipe en Coupe d'Europe en top 14. Et samedi, s'ils gagnent, ça peut servir de déclic.
Après, il y a toujours le problème du complexe. Hein. Quand tu joues face aux Toulousains, tu as toujours ce petit complexe qu'il va falloir ôter de leur tête. Parce que
ah, ils auront une idée de revanche, Denis, peut-être.
Oui, mais même, t'as une équipe qui regarde Toulouse dans le passé, et même contre la, ils finissent toujours par gagner. C'est-à-dire qu'ils ont une maîtrise, ils ont une expérience. C'est des grands matchs que peut-être pas Bordeaux.
Est-ce qu'ils vont l'avoir?
J'espère pour eux, mais
ils sont en tout cas, ils sont pas là. Denis, c'est sur un match, parce que je pense que le Stade Toulousain, si on avait un championnat comme le foot, sur l'année au complet, injouable, avec l'expérience qu'ils ont et l'effectif qu'ils ont. Là, sur un match, ils ont évidemment toute l'expérience, sont double champions. Mais bon, on en a vu d'autres, messieurs, hein, ces dernières années, des favoris tombés. Voilà, le dernier qui vient en tête est Montpellier 2018, qui avait écrasé le championnat, qui arrive face à Castres, et il y a le miracle.
Ce qui est pas rassurant, c'est que le Toulouse cette année est aussi fort que celui de Toulouse l'an passé. Hein.
Sinon plus.
Je trouve assez juste, Christophe Furios, quand il dit qu'il y a Toulouse encore un peu de marge, il est plutôt juste dans son analyse. Ils ont de la marge en novembre. On verra en mai.
Alors, en attendant, ils vont déjà s'affronter donc le week-end prochain. Ce sera dimanche soir pour le sommet de ce début de championnat. C'est vrai que c'est un match qui fait saliver. Mais tu le disais, Wilfried, malheureusement, il y a la Coupe d'Europe qui devrait arriver la semaine d'après, et du coup, Toulouse ne va sans doute pas mettre toutes ses forces vives dans la bataille. On sait que certains internationaux, la plupart d'ailleurs, étaient de repos cette semaine. Ils vont quand même revenir à un moment pour jouer avec le Stade Toulousain, non?
De ce que disait Hugo Mola après le match de Brive, pas sûr. Il a dit que la victoire contre Brive, il l'attendait. Une fois qu'il l'a eu, il nous l'avait dit déjà avant le match. Il a dit certains sont au repos cette semaine et le seront encore la semaine d'après parce qu'il y a la Coupe d'Europe et on est très attaché à cette épreuve. On est tenant du titre, on veut encore performer et donc il laissait entendre. Alors est-ce qu'il y a une part de bluff qu'il mettrait pas toutes ses forces samedi soir dans ce magnifique choc? Maintenant, on rappelle et on explique aussi Christophe que à l'heure où on se parle. Les Cardiff Blues n'ont toujours pas quitté l'Afrique du Sud où ils devaient jouer face aux Stormers et où ils ont été bloqués. Et en plus, ils avaient deux cas positifs au Covid, dont un peut-être avec le nouveau variant. Donc on est à moins 10-12 jours du match face à Cardiff. Est-ce qu'il y aura période d'isolement? Est-ce qu'il y aura match? Est-ce qu'il va pas falloir décider? Et est-ce que, surtout, ça va changer la stratégie toulousaine s'il n'y avait pas match de Coupe d'Europe la semaine suivante? Voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation. Ouais, c'est vrai que je le sentais dans ta voix, Christophe. T'as envie de voir.
Oui, mais
c'est
frustrant parce que en rugby, la plupart du temps, les chocs comme ça annoncés en plein milieu de la saison, font pchit parce qu'évidemment, tu fais tourner et que tu ne veux pas mettre toutes tes forces dans la bataille. C'est compréhensible, hein. C'est la formule du championnat qui veut ça, quoi.
Oui, et puis t'as pas d'obligation non plus, donc on parle pour rien dire. Il fait ce qu'il veut, Hugo Moulin.
C'est frustrant pour le spectacle, c'est frustrant pour le diffuseur, c'est frustrant pour tout le monde. Il y a que toi qui n'es pas frustré, quoi.
Mais non,
rêve.
Mais le diffuseur a quand même imposé des choses alors, à ce moment-là. Ah ouais. À la Ligue. Et pourquoi pas?
Ah. Qu'est-ce qu'ils pourraient imposer?
Une équipe qui soit avec 10 titulaires, ou je sais pas, ou une grosse équipe qui affronte.
Non, mais tant qu'on aura des phases finales, ce sera comme ça. Tant qu'on n'aura pas le champion.
Non, mais on parle pour rien dire. Ça arrivera toujours. Et tu verras que ça tout arrivera vraiment avec une équipe bis contre Bordeaux.
Bon, on verra la composition et on devrait quand même malgré tout se régaler parce que même l'équipe bis du Stade Toulousain est quand même assez compétitive. Le retour du top 14, malheureusement marqué ce week-end par une image bien triste, celle des larmes de Mathieu Bastaro effondré sur la pelouse de Mayol après une énième blessure. Basta, à qui l'on a décidé de rendre hommage en le nommant frelon de la semaine.
RMC, entre les poteaux,
lancé comme un frelon.
Mathieu Bastaro qui disputait samedi soir son deuxième match seulement depuis son retour de blessure, match malheureusement achevé dès la troisième minute, lorsque son ou plutôt ses genoux ont craqué, Jeff.
Ouais, c'est terrible, l'image a fait froid dans le dos, puisque c'est sur sa première intervention que le numéro 8 et capitaine du Loup glisse tout seul sur un appui quasi anodin. Il reste alors de longues minutes avant d'être évacué sur une civière vers l'hôpital sous l'ovation du Stade Mayol. On rappelle qu'il a brillé durant 8 années avec le RCT, et c'est vrai que ça paraît assez fort comme image, puisque Bastaro est pas un joueur comme les autres, c'est un joueur qui a marqué le top 14 mais aussi l'équipe de France. Il a passé des examens malheureusement peu rassurants samedi soir, et aujourd'hui on a eu le verdict définitif, sans appel, rupture du tendon quadricipal, c'est dur à dire ça, je sais pas si Denis arriverait à le dire, des deux genoux. Vous rendez compte, des deux genoux. La saison dernière il avait eu ça au genou gauche, là il a ça aux deux. Ça n'arrive jamais, cette blessure. C'est peut-être une première dans l'histoire du rugby français. Il sera opéré jeudi à la clinique Mermoz de Lyon. 6 mois, voire 8 mois d'indisponibilité pour revenir. Bon, sa saison est terminée. Mais est-ce que c'est seulement sa saison qui est terminée? Ça, c'est la vraie question.
Alors, tu dis l'image est impressionnante. Moi, je la trouve pas très impressionnante parce qu'on n'a pas l'impression qu'il se blesse. C'est le genou qui lâche.
Il se tord
sur une
douleur,
action. Oui, après. Mais sur le coup,
d'ailleurs, en fait, il s'affale. C'est-à-dire les genoux lâchent, ils s'affalent et ils glissent sur le terrain.
C'est le deuxième qui compense en fait. C'est aussi, ils se pètent le deuxième en voulant compenser.
Tout pète en fait, ouais. C'est dingue.
Oui, alors que le premier lâche, il veut se récupérer pour le deuxième, il lâche.
C'est quand même énorme. Enfin, c'est quand même hallucinant de se péter les deux genoux d'un côté sur un choc, enfin sur une action quasiment anodine. Comment on explique la faute à pas de chance, retour précipité. Genou, est-ce qu'il serait pas un peu trop lourd aussi, Mathieu, et en manque de compétition finalement pour disputer ce genre de match?
Il est
à combien? Il est quasiment à 140 kilos là.
130,
oui, facile. 130, je pense.
Plus que ça. Léo, tu vois, il y a un genou qui a été opéré déjà. Donc il y en a un qui a relâché. Donc il y a un problème quand même d'opération. La première, est-ce qu'il a récupéré la première? Apparemment non. Donc déjà c'est intriguant.
Ouais, mais quand tu mets 140.
Oui, mais après, Mathieu s'est pas blessé au long de sa carrière. Ça fait quand même tout 12 ans ou 13 ans qu'il est au haut niveau.
Oui, mais là, il y a l'usure. Il y a l'usure.
Oui, voilà. Mais il a jamais été très gravement blessé, Mathieu.
Non mais sans aller sur son poids exact, de toute façon il a quand même une masse à porter, c'est forcément traumatisant pour tout ce qui est tendineux. Donc oui, ça fait 15 ans qu'il est sur les terrains parce qu'il commence jeune. On peut penser que parce que la même blessure trois fois, du coup deux fois la même là et une fois il y a 9 mois, oui on peut penser qu'il y a une forme d'usure, ouais.
Alors Jeff, tout ça ne sent pas bon évidemment. Basta n'est plus un perdreau de l'année, je le disais, il a 33 ans, déjà pas mal de blessures derrière lui et une carrière qui n'a pas été rectiligne, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment en équipe de France.
Ça c'est vrai, et c'est vrai que c'est un coup dur de plus et c'est un peu un monument du rugby français, mais depuis quelques années, c'est vrai qu'il enchaîne les galères. Rupture du tendon du quadriceps gauche au cours d'un match contre Brive le 27 décembre 2020, il est opéré quelques jours après, il fait la préparation estivale, il reprend part à un match amical le 20 août face à Clermont et là il se pète la main, quatrième métacarpe de la main droite. Autant dire que là aussi, il a encore arrêté. Et samedi, c'était seulement son deuxième match de la saison. C'est le pauvre, quoi. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur. Lui, il a connu beaucoup de choses depuis 2006 à Massy, au Stade français, à Toulon, à Lyon, aux États-Unis et encore à Lyon. Il a tout gagné aussi avec le RCT en équipe de France. C'est un peu plus sinueux. Sa carrière internationale a débuté en février 2009. Ça aurait duré 10 ans jusqu'à sa non-sélection pour la Coupe du Monde 2019. Quelques polémiques notamment en Nouvelle-Zélande. Et il a gagné aussi un grand chelem en 2010. 54 sélections. C'est pas un joueur comme les autres. C'est un joueur auquel les Français se sont attachés. Et c'était aussi un des joueurs qui a malheureusement peu gagné avec l'équipe de France. Il a commencé par une victoire assez jeune. Mais depuis,
il a fait des allers-retours incessants avec l'équipe de France.
C'est ça.
Un coup, il était le messie, celui qui était même capitaine du 15 de France.
On trouvait que c'était un bulldozer, que ça ne servait à rien. Et après, on disait, c'est typiquement le joueur qu'il nous faut pour faire avancer l'équipe de France. Ça dépendait des sélections.
Bernard Laporte m'a toujours dit, sans lui, je n'aurais jamais gagné 3 Coupes d'Europe. Donc c'est clair.
Mais il a un profil de jeu tellement clivant et atypique.
C'est vrai.
Si on l'utilise sur ses points forts, il y a pas grand monde
qui est aussi fort. Mais il était monstrueux. Quand on savait l'utiliser, notamment à Toulon, il était.
Il faut l'utiliser sur ses points forts parce qu'effectivement, il n'est pas capable d'aller sur tous les registres.
Et l'ironie du sort, c'est qu'il finit peut-être sa carrière à Mayol en tant que capitaine de Lyon.
Reste à savoir si c'est vraiment la fin de sa carrière. À Toulon, ils veulent l'accompagner. Il est trop tôt pour parler de prolongation de contrat. Il était en fin de contrat l'été prochain. L'idée de Pierre Mignoni, de Yann Roubert, du président Roubert, ça va être de voir comment ils peuvent l'aider. Pas de décision à chaud. Bastard, on va pas prendre une décision à chaud. Ce serait la pire connerie à faire. C'est de dire maintenant j'arrête ou dire je continue. La priorité, ça va être d'abord de remarcher, de refaire ses lacets et de reconduire une voiture, de revivre après deux opérations des genoux.
Parce que il peut plus marcher.
La seule réponse, c'est médical. S'il a un feu vert médical, qu'on lui dit vas-y, tu peux y aller à 100%, peut-être qu'il.
Mais s'il a envie de faire les efforts,
est-ce qu'un médecin va lui dire ça? Après, ça se soit pété le même genou un an plus tard.
La récupération, ça dépend. T'as vu le skieur,
il a mis un message là sur Twitter à l'instant. Sur le verdict et tout, il dit maintenant c'est un long chemin qui m'attend et je me suis bien entouré avec ma famille, mes proches et le club. Je prendrai le temps qu'il faut pour me remettre à 100%. Et quant à mon futur, je me laisse un temps de réflexion. Et après, il dit, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages de soutien durant ces derniers jours. Mais voilà, je me laisse un temps de réflexion pour mon futur.
Mais pas décidé à chaud. Hein.
Mais je pense qu'alors, il est en fin de contrat, évidemment. Donc, ça va être compliqué de lui faire un contrat.
Mais enfin, Roubert et Mignonnet sont très attachés à Bastaro.
S'il revient, il replongera au loup. Je pense qu'il n'y aura nulle part ailleurs.
Eh bien, on lui souhaite en tout cas
un bon
rétablissement.
C'est un bon mec en plus.
Hein. Ouais, un super bon mec. Basta, Roquette, Guy.
Bon courage. De tout cœur avec toi, Mathieu. Voilà.
Il est l'heure de passer à l'actu internationale. C'est le French Cancan Time.
Et deux infos dans French Cancan. Tout d'abord, l'officialisation la semaine dernière de la nouvelle règle de World Rugby concernant l'éligibilité en équipe nationale. Je te vois bien danser le French Cancan, mon ami.
Hein, au restaurant.
Désormais,
ouais, comme Bastaro après, les deux tendons.
Bon, bah, il rigole pas, Mathieu, quand même. Là. Désormais.
Non, Denis, avec toi, je rigole pas sur Mathieu, c'est toi.
Il rigole de toi. De toi, on peut se moquer quand même. Hein, voilà. Ouais. Je le disais, désormais, et sous certaines conditions, on pourra passer d'une sélection à une autre au cours de sa carrière en laissant passer trois saisons, je crois, entre deux maillots. Règle dont le but est de favoriser les équipes du deuxième tiers qui sont souvent pillées par les grosses nations. Certains ont déjà émis le souhait soit de recruter, soit de proposer leurs services aux petites équipes. Le Portugal, coaché par la Gisquet, rêve d'enrôler le pilier du Racing Gomes Sá, qui a porté le maillot de l'équipe de France à 10 reprises. Et puis l'ancien trois quarts toulonnais, Maxime Mermoz, lui envisage tout simplement de reprendre sa carrière pour aller aider l'Algérie. Tu n'as pas l'intention, toi, de reprendre une carrière pour aller aider une équipe? Je sais pas, t'as quoi comme origine? T'as pas des origines?
Non,
Slovaque, non. Moldave.
Slovaque, c'était oui, mes filles.
Ouais. Bon, on a pas ouvert la boîte à Pandore.
L'Arménie, non?
Ouais, ce serait pas mal. C'est clair. Bon, Denis, t'es d'accord avec la nouvelle règle? Oui, en plus, Bernard Laporte est venu dans
les grandes gueules du sport nous expliquer. Mais je suis d'accord, oui, bien sûr.
C'est vrai que pour les gens qui suivent le rugby, ça va être encore plus incompréhensible.
Avec Folau, je suis moins quand même, je suis plus mitigé, voilà. Je pense qu'un joueur qui a porté 80 fois le maillot d'Australie ne doit pas rejoindre une autre sélection. Ouais. Mais bon, ça c'est.
Donc tu limiterais, tu t'as porté le maillot 5-10 fois et ensuite.
Voire 20 fois, mais si. Ah ouais. Si un joueur comme All Black, je le comprends très bien,
mais pas 25, quoi.
Non, mais un joueur All Black comme Fekitoa, qui ne joue pas depuis 3 ans ou 4 ans, qui est barré en équipe All Black, je comprends que le garçon, s'il peut jouer, tenter sa chance. Ouais,
ça rendrait service, Denis, à des équipes sûr. Comme le Tonga, comme
mais
le.
Mais c'est le but de la World Rugby.
Bien sûr, elle est calibrée pour eux, cette règle, pour les Samoans, Fidjiens et Tonga. Voilà, même si d'autres vont pouvoir faire de l'opportunité dessus. Mais
là où je la comprends, c'est que c'est pour, comment dire, pour que et rehausser le niveau, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ces nations comme le Tonga, on l'a joué il n'y a pas longtemps, et le barbarien français, c'est très faible. Donc, ils sont costauds, mais c'est pas, voilà, ils n'ont pas d'équipe à la hauteur.
Non, mais surtout qu'à un moment, la politique néo-zélandaise, il y a un nombre incroyable de joueurs qui ont 3-4 sélections, juste pour les verrouiller, en fait, pour pas qu'ils aillent jouer après.
Oui, c'est ça, oui, tu as raison.
Donc, voilà, c'est à un moment, ces joueurs-là qui ont 3 sélections avec les Blacks ou 2 sélections, il faut qu'ils puissent retourner jouer avec les Samoa, Fidji ou Tonga, quoi.
Et on verra les effets rapidement de cette règle qui va entrer en vigueur.
Il y avait l'ailier de Brive, vous n'en avez pas parlé, Muller.
Oui, qui va jouer avec les États-Unis.
Qui a passé son tour dans le milieu olympique aujourd'hui. Aux États-Unis, et je trouve ça.
Non, mais il va y avoir des belles histoires là-dedans.
Ouais, ça, c'est
forcément.
Une belle histoire. Ouais.
Et puis, autre info, la visite étonnante dans le top 14 ce week-end, celle d'Eddie Jones, le sélectionneur du 15 de la Rose, qui était présent samedi dans les travées du GGL Stadium de Montpellier, invité par Pierre-Henri Broncan, dont il est très proche. Le manager castré qui a expliqué à Julien Landry les raisons de la visite du sulfureux Mr. Jones.
Je l'ai rencontré quand j'étais à Basse. C'est quelqu'un qui est un vrai passionné de rugby. Il est arrivé jeudi soir chez moi et depuis jeudi soir, on a regardé quand même Béziers-Mont-de-Marsan pendant 80 minutes. Hier, il a été impressionné justement de voir tous ses matchs télévisés en Pro D2 en France. Et voilà, il repartira demain en fin de matinée. Donc on va boire le café chez moi, à la maison, avec peut-être un autre sélectionneur demain matin. Mais c'est le bon moment d'avoir Eddie Jones avec nous, parce que c'est monsieur Eddie Jones. Voilà, tout simplement.
Bon, ça, c'est ce qu'on veut dire.
Il y avait Fabien Galthié au café, alors?
Non, mais il y avait Philippe Saint-André qui était sur la pelouse.
Ah oui,
samedi. C'est peut-être de Philippe dont tu veux parler, je sais pas. Ouais. Bref, alors.
Chez moi, tu crois que Philippe Saint-André était.
Je sais pas, je n'en sais rien. C'est toi qui enquête sur le terrain, Wilfried.
C'est vrai.
Hein, alors donne-moi l'info, c'est pas.
Mais
ne me la demande pas à moi.
Moi, je pense qu'à Castres, c'est plutôt.
Mais non, mais qui dit ça comme ça? Il dit ça comme ça.
Ouais.
Personne n'a trop réagi, mais. Voilà, on entend ça.
Tu as raison.
Ce week-end,
tu as raison. Voilà. Alors pourquoi il est venu? Juste pour passer un week-end,
mais
Denis?
Non, mais j'ai lu qu'il était venu pour regarder les installations pour la prochaine Coupe du Monde de.
Ah oui, il repérait l'hôtel de l'équipe d'Angleterre.
Parce qu'il a pas la Pro D2 à la télé en Angleterre.
Il s'ennuie en Angleterre. Il est venu boire du pinard.
Il y avait peut-être aussi un joueur à suivre, à observer, Zach Mercer, qui est anglais, le numéro 8 de Montpellier, qui est très bon, mais qui ne peut pas, Léo, de par les règles instituées en Angleterre, qui ne peut pas aujourd'hui prétendre à l'équipe anglaise.
Il
mais pourquoi pas à terme
sélection, pour le coup, la fédération s'est jamais située au côté anglais. Ils ont eu à l'époque Stéphane Armitage, qui était meilleur joueur d'Europe en 2014. Ils ont eu Aben Danone l'année d'après en 2015, et les deux n'ont pas joué à la Coupe du Monde alors qu'ils étaient meilleurs joueurs d'Europe. Donc ils sont toujours tenus à leur politique, qui était pour une manière de lutter contre l'argent.
On a vu d'autres sélections finalement renoncer à cette règle.
Des sélections qui étaient en grande difficulté. C'est l'Australie notamment. voilà, les Anglais ils sont quand même équipés.
Ils ont du réservoir. Ouais.
Voilà, Mercer il est excellent.
Avec des gens plus de 60 sélections.
Mercer il est excellent, mais en troisième ligne ils sont équipés les Anglais.
Il a déjà pris Simons, il a fait l'effort de prendre Simons en 8. Alors Mercer, je pense qu'il est plus loin. Mais par contre, messieurs, c'est quand même bien. Avant le rugby c'était le chacun fermé, la forteresse et tout. Et maintenant tout s'ouvre. Même Fabien Galthié là le dit, il envoie tous les projets de jeu au club top 14. Là il dit John Sivia à Castres et tout. C'est magnifique, Denis, le rugby. C'est la grande famille.
Oui, c'est les valeurs.
C'est les copains. Et blague à part, ça a été un vrai effet bénéfique ça du Covid, c'est que les entraîneurs sont mis à beaucoup plus échanger pendant la période Covid. Il n'y avait plus de matchs. Je sais qu'ils avaient créé des groupes WhatsApp ensemble, ils échangeaient sur les projets de jeu, sur.
Je ne sais pas s'il y a un WhatsApp entre Yurios et Mola.
Et bah alors voilà, il y en avait 13 sur 14.
Par contre, pour la mêlée anglaise, je ne sais pas ce qu'ils leur ont envoyé comme papier, parce que la mêlée anglaise, elle n'a pas progressé. Et Dee Jones, peut-être pourquoi pas un jour aussi entraîneur d'une équipe du top 14, ça peut aussi.
Je pense qu'il en a envie, même.
Oui, il en a envie, ouais. Peut-être venu prendre quelques rendez-vous et quelques.
Peut-être pas à Castres,
Racing, dans un ou deux ans.
Bon, écoutez, nous verrons.
Problème de chéquier, je pense.
Ils ont.
Vous avez les infos, non? Vous avez les infos un peu là?
C'est non, toi qui dois avoir les infos. C'est non mais attends, mais je rêve.
Mais non mais les gars, les gens ils téléchargent le podcast, il y a zéro info dans ce truc quoi.
Mais quel feignasse.
Bravo. C'est qui gère Castres à RMC les gars?
Bah je sais pas.
On sait, c'est Julien André, je crois, c'est Chazon.
C'est le mec qui fait tout le monde.
On a le chef du rugby, la voix du rugby et on n'a pas une info. Heureusement qu'il est au fort dans cette émission.
Et le consultant vedette qui est grave payé.
En fait Christophe, t'as pas compris c'est qu'il y a Léo du middle, donc on dit rien et bam derrière.
Dans un quart d'heure, papier sur rmc.fr.
Bam.
Si vous voulez des infos, c'est sur rmcsport.fr et sur middle.fr aussi. Hein. Voilà. Merci en tous les cas les garçons, on se retrouve la semaine prochaine.
Et Léo est quand même bien meilleur que Manu. Hein.
Ça c'est vrai. Je vous laisse la paternité de tout. Vous avez son numéro, vous voulez envoyer un texto?
C'est toi qui paye le resto.
D'ailleurs, en parlant de resto,
toujours pas vu. On le dit aux gens qui nous écoutent, le feuilleton, toujours pas de resto.
À la rentrée,
il m'en a parlé, il m'a dit que vous l'aurez jamais.
Allez, bonne semaine à tous, à lundi prochain, ciao.